France Inter.
Aujourd'hui, seconde main, l'envers des fripes, raconté par
Emmanuel Durand, anthropologue associé à l'École des hautes études en sciences sociales.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il y a quelques années, ma grand-mère maternelle, elle s'appelle Jeanne, me confie un lot de robes unies cousues à la main dans un épais coton blanc. L'une d'elles retient davantage mon attention, cette robe rapiécée, extraite des armoires de ma grand-mère, héritée de générations de femmes avant elle, témoigne des corps féminins qu'elle a enveloppés et des mains féminines, là aussi, qui maintes fois l'ont reprisée, raccommodée, retouchée. Ma grand-mère et les femmes avant elle naissent, grandissent, se marient et travaillent dans un territoire rural de l'ouest de la France, située en marge des grands centres urbains. Paris est à plus de 500 km et Nantes à 30. Là, dans ce village du Bocage, le vêtement réalisé à partir de fibres naturelles végétales ou animales est issu d'une fabrication limitée et onéreuse. De sorte qu'en cette fin de 19e siècle, il reste un produit rare, coûteux et convoité qui circule, se transmet ou se transforme selon des circuits intra ou extra-familiaux de récupération, de recyclage et de seconde main qui ne portent pas encore leur nom. Repriser les trous des chaussettes, passe-filer les bas, remailler les tricots de corps, raccommoder les genouillères d'un pantalon, rallonger les robes pour qu'elles fassent une année de plus, égrène ma grand-mère, dressant ainsi un inventaire de pratiques pour certaines devenues désuètes. Au fil du temps, le vêtement se déclasse au sein même de la sphère domestique. Il change de rang, de pièce. La robe de fête du dimanche devient robe de tous les jours, puis robe de chambre, de nuit, jupon et enfin chiffon. Elle passe du salon à la chambre, puis au cagibi pour parfois finir au sous-sol dans un coin du garage. La circulation du vêtement d'occasion rapiécé n'est donc pas considérée comme un commerce au rabais, encore moins comme une pratique marginale. C'est une pratique ordinaire, voire valorisée, intégrée à la vie quotidienne en contexte rural comme urbain. Aujourd'hui, on estime à 700 000 tonnes le nombre de vêtements jetés chaque année en France et qui alimentent pour une grande part un commerce très lucratif de la fripe. Quel est l'envers du décor de cette économie ? C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Emmanuel Durand.
Bonjour.
Le texte que je viens de lire est extrait de votre ouvrage « L'envers des fripes » publié aux éditions Premier Parallèle. Et même si cette scène avec votre grand-mère se passe donc dans la région vendéenne, c'est au Liban, à Beyrouth, que commence votre enquête. Pour quelle raison exactement ?
Alors en fait, le processus s'est fait dans le sens inverse, puisque ça fait une dizaine d'années maintenant que je vis et travaille entre la France et le Liban, et donc j'avais fait des premières enquêtes ethnographiques à Beyrouth principalement. Quand c'est la fripe qui s'est invitée sur le terrain comme un sujet de recherche, à partir d'un constat paradoxal où il y avait de plus en plus d'échoppes de fripes au Liban, et en même temps des représentations sociales extrêmement négatives envers cette matière-là. Donc j'ai voulu me pencher sur cette question. Et puis pour moi, c'était aussi une manière de rentrer au Liban par la fripe, c'était une manière de replacer ce pays et plus largement cette région du Proche-Orient dans l'épaisseur un peu historique de la confection textile, pour rappeler en fait le rôle stratégique en tant que centre manufacturier, mais aussi vraiment zone de transit sur les routes de la soie qu'avaient occupé le Liban et la Syrie voisine au 19e notamment, mais avant aussi.
C'est ça, et on va voir qu'il y a un lien tout à fait particulier avec la France, avec la ville de Lyon d'ailleurs aussi. Qu'est-ce qu'il faut entendre par fripe ? De quelle catégorie de textile est-ce que l'on parle exactement alors ?
Alors l'enjeu du lexique, c'est un vrai sujet parce que la notion, enfin le terme de fripe n'est pas juridiquement défini. Et donc on a cet imaginaire, je pense qu'on va être amené à voir pourquoi, quelque chose qui est un vêtement qui serait usé, qui aurait déjà été porté. Moi, la particularité, alors je suis pas la seule, de plus en plus de chercheurs et de professionnels vont sur cette définition-là, mais il me semble qu'il est important, quand on parle de fripe, de considérer à la fois le vêtement usagé, mais à la fois aussi le vêtement neuf, parce qu'on voit que les filières, et j'insiste sur la pluralité de ces filières-là, mélangent de plus en plus l'usagé et le neuf. Et donc, en fait, moi, j'aborde la question des fripes comme la part un peu résiduelle du textile, donc les restes, en fait, ouais. Ce qui reste, ce qui, finalement, nous amène petit à petit à la question des déchets, parce que la terminologie du mot déchet vient aussi de ce qui des chutes et de ce qui reste.
C'est ça. Donc, voilà. Mais le déchet, ça peut être du neuf aussi, alors.
Et hein, tout à fait.
Dans ces fripes. Qu'est-ce que vous vouliez comprendre, vous, en enquêtant exactement sur cette question en tant qu'anthropologue? Est-ce que vous aviez déjà quelque chose de très clair derrière la tête, hein?
Alors, la définition un peu du sujet, elle s'est fait vraiment au fil de l'enquête ethnographique pour un peu justement affiner ces questions de recherche. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement en partant de ce paradoxe-là entre de plus en plus d'échoppes et en même temps des représentations qui tendaient à être de plus en plus négatives. Ce qui m'intéressait de comprendre, c'était en fait ce rapport qu'on a dans nos sociétés contemporaines avec la souillure, avec ce qui reste justement, quelle place sociale on leur donne. Quelle place spatiale aussi dans l'espace, notamment urbain. Mes recherches sont plutôt concentrées sur des contextes urbains. Donc voilà, c'était ce rapport au reste, à la souillure et à cette part résiduelle, en fait, quelle place, quelle valeur sociale, symbolique, économique on fait aujourd'hui à ces matières.
Alors cette enquête sur les fripes, on peut donc la faire démarrer au 19e siècle, hein, parce que si vous n'êtes pas historienne, pour autant, il y a quand même pas mal d'histoire, elle est tout à fait intéressante, parce qu'elle parle beaucoup aussi de la France, à ce moment où la révolution industrielle a bouleversé vraiment la fabrication du vêtement, avec, vous le disiez dans le texte tout à l'heure que j'ai cité, cette tradition du rapiessage, qui était finalement très banale pour des générations de femmes, qui ont précédé d'ailleurs votre grand-mère, et petit à petit, vous racontez à quel point cette pratique été dévalorisée, voire stigmatisée par toute la machine industrielle de production textile qui est arrivée après. Hein.
Oui, on voit en fait, là encore, l'histoire, elle s'est invitée dans l'enquête ethnographique, parce qu'on voit qu'au 19e, justement, ce rapport à la souillure, il connaît une première bascule, en fait, où finalement, donc on est avant le 19e, on est sur une pratique comme le mentionnait l'extrait lu, une pratique qui est onéreuse, qui est artisanale, qui prend du temps, et donc le vêtement dure toute une vie. Et parfois sur plusieurs générations. Le 19e, c'est la révolution industrielle, la mécanisation, l'automatisation et l'accélération de la production. Viennent aussi des nouvelles technologies, hein, en tout cas dans le domaine textile, ça va être les colorants artificiels, les fibres synthétiques, et donc tout ça, toutes ces inventions, viennent permettre à la production textile de produire en série et de produire le même vêtement exactement en série et en grande quantité, ce que ne permettait pas évidemment la confection artisanale qui était plus petite et plus variable en fait dans ce qu'elle permettait de produire. Et donc en fait cette apparition, ce changement de la production vient finalement construire une lecture un peu binaire par laquelle on regarde aujourd'hui le marché du vêtement, c'est-à-dire vient opposer le vêtement neuf. Oui. Aux vêtements usagés.
C'est ça, il y avait le textile raccommodé qui faisait figure de saleté, quoi, en fait. Hein. C'est ça, ce que vous racontez. Hein.
Oui, au 19e, effectivement, on a donc cette construction binaire qui oppose neuf à usagé. Elle vient, du coup, faire une bascule des représentations sociales du vêtement usagé, reprisé, chiffonné, qui, du coup, va être vue sur la fin du 19e siècle. Hein. Ça prend pas mal de temps pour que les représentations évoluent. Mais donc, effectivement, ça vient marginaliser ce vêtement usagé, à la fois socialement. Il va être, associé à des populations précaires, voire pauvres. Et puis, spatialement, parce qu'on voit que, du coup, les marchés, les bourses aux vêtements usagés, aux vieux vêtements, comme on les appelait au 19e, ouais. Finalement, se déplacent dans l'espace urbain.
Il y a l'exemple du Carreau du Temple, hein, à Paris, qui est un marché couvert donc, au 19e, et qui est un lieu, justement, où on vient acheter des vêtements de seconde main. Et c'est un énorme succès. Hein. Beaucoup de gens de différentes classes sociales, c'est ce que vous racontez, viennent donc acheter sur le carreau, c'est pour ça qu'il y a ce nom, hein, qui est au milieu justement de ce marché, ces vêtements qui sont déjà aussi exportés à l'international.
Oui, l'exemple du carreau du Temple, il est assez fascinant en fait au XIXe siècle parce qu'il permet de prendre la mesure de l'évolution de ces pratiques et de ces représentations. Effectivement, au XIXe, comme le montrent voilà, tous les travaux de Manuel Charpie, un historien spécialiste du XIXe, c'est un marché central, ordinaire, où les gens, c'est-à-dire la classe bourgeoise, les étudiants, la classe ouvrière aussi, beaucoup, et puis ce qu'on appelle à ce moment-là, à cette époque-là, les sans-le-sou. Donc, sur ce marché se croisent toutes ces populations pour acheter des vêtements usagés qui, à ce moment-là, et c'est aussi intéressant, sont récupérés par les chiffonniers. Donc, les chiffonniers, en fait, récupèrent plutôt les vêtements qui viennent des pensionnats, des hôpitaux, parfois des casernes militaires. Enfin, oui. Voilà, c'est plus ce genre de vêtements. On vient les acheter. Et puis, au fil du 19e, la révolution industrielle faisant son travail, son chemin, finalement, petit à petit, avec aussi toutes les thèses hygiénistes de l'époque.
C'est le baron Haussmann qui est là.
Tout à fait.
Hein. Donc, il y a aussi cette politique qui entre en jeu. Hein.
Oui, on voit avec ces thèses hygiénistes qui ont un vrai impact sur le marché de la fripe à ce moment-là. La fripe devient associée à la maladie, parce qu'à ce moment-là, comme les vêtements viennent des hôpitaux, des pensionnats, etc., c'est plutôt les vêtements des personnes décédées. Et donc, il y a une crainte sanitaire, en fait, avec ce vêtement usagé qui pourrait, des sortes de fantasmes aussi, qui pourrait transmettre une maladie, etc. Et donc, on les éloigne petit à petit, pour repenser aussi le cœur de Paris, on éloigne ces bourses aux vieux vêtements, et c'est là, en fait, à ce moment-là, à la fin du 19e siècle, qu'apparaissent ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les puces de Saint-Ouen ou le marché de la Porte de Montreuil, qui, à ce moment-là, ne sont évidemment pas le Montreuil et le Saint-Ouen qu'on connaît actuellement, mais sont ce qu'on appelle la zone qui entoure Paris, et donc un espace extrêmement relégué et très précaire, à la fois socialement, mais aussi en termes sanitaires.
Est-ce que le terme de puce, il vient de là, d'ailleurs, ou pas du tout? Est-ce qu'il a un lien avec ces vêtements dont on avait le sentiment qu'ils pouvaient vous apporter tout un tas de miasmes?
Je ne saurais pas vous dire, mais ça pourrait être une piste.
En tout cas, c'est la naissance, effectivement, de cette arrivée, en tout cas, à la périphérie de Paris, de ces vêtements. Vous racontez qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, les empires coloniaux organisent la livraison de vêtements usagés à destination des pays en situation de dépendance coloniale. Et puis, au moment de la Seconde Guerre mondiale, là, on va avoir aussi, puisque vous parliez du Liban, un vrai marché qui va se mettre en place aussi, de la fripe. Hein.
Oui, alors, on le voit, hein, le carreau du Temple exporte déjà à l'étranger au 19e, mais en fait ce qui est intéressant quand on poursuit l'histoire et qu'on arrive au 19e siècle, on voit que donc le fait que le vêtement usagé se soit un peu dégradé dans les mentalités, hein, finalement c'est à ce moment-là que le geste caritatif du don vestimentaire, il naît au 20e siècle, un peu après la Première Guerre mondiale, mais vraiment principalement après la Seconde Guerre mondiale, où en fait on est aussi dans un moment colonial, hein, où du coup les empires ont des relations avec les pays en situation de dépendance, et c'est là par exemple la France envoie en quantité des ballots, donc des sacs en plastique de 50 kilos remplis de vêtements compressés, des ballots notamment au Liban et à la Syrie qui à ce moment-là sont sous mandat français.
Ce qui va nous faire arriver à l'époque contemporaine avec vous, Emmanuel Durand. On parle de l'envers des fripes depuis finalement le carreau du Temple au 19e jusqu'à l'application Vinted, avec les messages, les témoignages et les questions que vous pouvez nous envoyer sur franceinter.fr.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Devant ce centre commercial de Chambéry, une foule inhabituelle. Mélissa, 22 ans, et Marie, 24 ans, patiente depuis presque une heure.
Merci.
Une friperie éphémère s'installe pour 3 jours, une première dans la région. T-shirt, jeans, pantalon, robe, ces vêtements ont eu une première vie et sont vendus au poids, 32 euros le kilo. En moyenne, 70% moins cher que dans les boutiques de prêt-à-porter que les deux jeunes femmes fréquentent de moins en moins.
Oui. Financièrement, tout a augmenté, donc par déduction, nos moyens, ils ont réduit. Et du coup, après, c'est compliqué de s'habiller. Et après, on n'a pas forcément envie de, de se restreindre trop non plus dans notre façon de s'habiller.
Elle, j'adore, mais elle va être trop petite, je pense.
C'était un reportage de 2023 avec ce thème des friperies, l'envers des fripes, les vêtements dans les plis de la mondialisation. C'est ce livre que vous avez publié, Emmanuel Durand, aux éditions Premier Parallèle. Là, c'est intéressant cet exemple parce qu'on est sur le prêt-à-porter précisément. Et la vente au poids, qui est tout à fait particulière aussi dans ce monde de la friperie.
Oui, on voit, alors qu'existe en fait, pareil, hein, depuis le 19e, où on a déjà des premiers systèmes de vente au poids. En tout cas, ce qui est intéressant et qui me permet de rebondir sur cet extrait, c'est que la vente au poids rejoue aussi des mécanismes de ce qu'on appelle la surconsommation, incite en fait à surconsommer, à ne pas se restreindre,
c'est
comme
ça.
Le disent ces femmes-là dans l'extrait, et donc voilà, pose des questions en termes de pratique de consommation, de ce qui est présenté comme alternatif.
Et de surconsommation, puisque précisément cette affaire de seconde main est très liée aussi à la surconsommation. On va en parler avec vous dans quelques minutes. Encore un petit mot d'histoire, parce que c'est intéressant de retracer ce qui s'est passé. Là, si on va aux années 60-70, c'est une période importante pour la seconde main, c'est ce que vous racontez, parce que c'est l'avènement précisément du prêt-à-porter. Et alors là, on a un changement aussi majeur sur les pratiques.
Oui, tout à fait. On voit que là aussi, on est sur un moment de l'histoire qui opère une bascule, parce que donc vraiment, les années 60-70, c'est l'essor du prêt-à-porter. On passe du sur-mesure, la confection artisanale, oui, au prêt-à-porter, la confection sérielle, etc. Et c'est aussi le moment où il y a, en termes d'urbanisme, hein, les centres commerciaux et tous ces grands conglomérats en fait, de l'industrie textile, je pense à des conglomérats espagnols, suédois notamment, qui s'installent et qui ouvrent comme ça des chaînes de commerce, de vêtements à bas coût.
La fast fashion arrive à ce moment-là ?
C'est ça. Elle arrive en fait dans les années 70-75 en Europe et aux États-Unis également. Et donc ça, en fait, ça a un impact sur la filière de la seconde main, parce que cette surproduction, finalement, cette surmise sur le marché de vêtements nouveaux coïncide aussi à un moment, on est historiquement aussi, les années 60-70, on est en pleine guerre froide, il y a une multiplication des conflits mondiaux, etc. Et puis, vous vous souvenez, on a parlé de cette naissance du geste caritatif du don vestimentaire après la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, c'est un geste qui est valorisé socialement. On va donner des vêtements dont on ne veut plus pour des populations dans le besoin. Il y a cet imaginaire-là. Et cette filière-là, elle est prise en charge par les acteurs associatifs qui, à ce moment-là aussi, se professionnalisent davantage. On a des grosses associations qui
dans l'aide humanitaire. Hein,
c'est ça, de l'aide humanitaire.
Il y a vraiment une explosion aussi des associations. Oui.
Tout à fait. À ce moment-là, c'est le cas. Et en fait, finalement, assez vite, cette aide humanitaire, ces acteurs associatifs se retrouvent un peu bloqués par ces surplus aussi de dons, parce qu'ils sont pas armés humainement en termes de
capacité logistique, hein, pour faire le tri en fait.
Tout à fait, techniquement aussi pour gérer ces flux, ces reflux en fait de vêtements. Et c'est là qu'arrivent dans la filière des acteurs privés, ce qu'on appelle aujourd'hui les grossistes, qui ont des usines d'import et d'export et des usines de tri, parce que la question du tri, elle est centrale dans cette économie,
ouais,
et elle est extrêmement coûteuse.
C'est ça.
En main d'œuvre.
Il faut bien trier, parce que évidemment, en fonction du tri, on va pas s'adresser à la même clientèle. En tout cas, ce qui est hallucinant, ce sont les chiffres, hein. On voit au fil des années et des décennies, entre 1980 et 1995, le montant des exportations mondiales de fripes passe de 207 millions en 1980 à plus d'1,4 milliard en 1995. Il faut construire des usines de tri. Vous racontez que la Tunisie devient un lieu central du travail, justement du tri de la fripe. Le Mexique d'ailleurs aussi en Amérique, hein, pour le marché états-unien. Et puis là, on va aller en Inde avec l'extrait d'un reportage d'Envoyé spécial en 2024. Reportage baptisé « Very Bad Frip ».
Moi, je dois ramasser les pantalons et des chemises de nuit. Moi, je trouve ça bien que les étrangers jettent leurs affaires. Grâce à ça, on a du travail. On gagne notre vie, on peut élever nos enfants et faire vivre notre famille. C'est bien. S'ils ne jetaient pas, on n'aurait pas de travail. C'est vraiment bien.
Elle va enfin pouvoir souffler. C'est l'heure de la pause. Les trieuses ont 25 minutes pour déjeuner, au milieu des vêtements, qui serviront de tapis.
Emmanuel Durand, une réaction évidemment sur ce reportage, parce qu'il y a toutes les conditions sociales aussi souvent cachées, invisibilisées autour de la fripe. Hein. C'est aussi la réalité de ce commerce mondial aujourd'hui.
Oui, ce qui m'intéressait, c'était de complexifier le sujet et de montrer la diversité des filières et des parcours, et surtout de montrer en fait cet entre-deux qui constitue le système de production de la fripe, parce qu'entre le moment où le vêtement est donné et le moment où il est revendu et donc qui rejoue un cycle de vie, un cycle de profitabilité, il faut beaucoup de travailleurs, d'hommes et de femmes, et beaucoup de territoires aussi. Ouais.
Il faut beaucoup de CO2 aussi. Hein.
Exactement.
Parce que ça voyage énormément, et ça revient parfois à l'endroit où ça avait été fabriqué. Hein.
C'est ça. Ou en tout cas, où ça a été donné. Et c'est vrai que voilà, ce qui m'intéressait, moi, c'était de voir un peu ces filières, finalement, logistiques, le travail logistique et de tri, de conditionnement, d'emballage, etc., qui vient produire et extraire la valeur de ces vêtements que d'autres, en fait, ont donné auparavant.
Est-ce qu'il y a un tri universel finalement dans le monde ? Est-ce que tous les grossistes trient de la même manière ces fripes ou pas ? Est-ce que c'est coordonné à l'échelle mondiale ?
Alors, qualitativement, les grossistes ont leurs spécificités et donc on va plutôt s'approvisionner auprès d'un tel ou d'un tel parce qu'on va se dire qu'il a une politique de tri plus mieux faite, etc. Donc il y a des nuances. En tout cas, ce qui rassemble les grossistes, c'est qu'ils ont une grille de catégorisation qui est commune, où finalement ce qu'on va appeler la crème dans le jargon de cette économie-là, donc c'est la meilleure qualité, c'est la top qualité.
C'est le terme, ça, c'est la crème.
La crème.
Ah ouais, ok.
Et c'est pour le coup universel, qu'on soit au Liban, à Dubaï, en Belgique.
On parle de la crème.
C'est ça, exactement. Okay. Vient ensuite la catégorie 1, qui est donc un peu une qualité un peu moins élevée, la catégorie 2, jusqu'à arriver au chiffon. Pareil, chiffon, c'est employé de façon universelle. Et cette catégorisation, il me semble, en tout cas à travers l'enquête ethnographique, elle pose la question parce que la crème est plutôt destinée au marché européen, la catégorie 1 au Moyen-Orient et à l'Europe de l'Est, la catégorie 2 à l'Amérique du Sud et le chiffon à l'Afrique et à l'Asie. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a dressé ce constat, il me semble que ça soulève un enjeu, une problématique, parce que ça vient rejouer, réifier un certain ordre du monde. Ça vient finalement recycler aussi un certain nombre d'inégalités sociales, mais aussi spatiales. Et donc, ça pose la question, éthiquement et presque philosophique, en fait, de qui a le droit à quoi. Et donc voilà, c'est ce constat aussi qui m'a amené à entrer davantage dans le sujet.
Ce que vous nous montrez, c'est qu'il y a une découpe géographique au fond de ces fripes qui vraiment redirige ces vêtements pour des catégories sociales particulières. Hein.
C'est ça, où chaque territoire, chaque région du monde va être associée à un type de vêtement et surtout en fait à une politique tarifaire, parce que la crème n'est pas vendue au même prix que le chiffon. Et donc on estime aussi la valeur économique des territoires.
Emmanuel Durand, est-ce que l'industrie textile aujourd'hui, elle a besoin du circuit de la seconde main et des fripes pour fonctionner correctement ?
Alors, il ne me semble pas qu'elle ait besoin de l'industrie de la fripe pour fonctionner, mais en tout cas, le secteur de la fripe lui permet de continuer à exister en toute légèreté, je dirais, malgré toute cette dynamique de surproduction. Pourquoi j'avance ça ? En fait, c'est que le secteur de la fripe, qui connaît ces dernières années un vrai essor aussi, parce que les représentations sociales ont évolué depuis notre histoire.
On va en parler dans un instant, oui.
Et finalement, il y a un attrait pour ces pratiques de consommation de seconde main.
Pour plein de raisons. Hein.
C'est ça. Et qui vient, en fait, finalement, permettre à l'industrie textile de se débarrasser de ses surplus, de ses invendus, parce qu'il trouve une autre filière, celle de la seconde main. Et donc, finalement, l'industrie textile, elle ne risque pas d'être étouffée, de suffoquer sous ses stocks. Et le stock, en fait, c'est vraiment la fragilité d'un système de production aujourd'hui. Et donc, puisque la fripe absorbe, d'une certaine manière, la fripe permet à l'industrie textile de continuer à surproduire, à toujours surproduire. C'est ça.
On va voir justement que l'essor de cette fripe, c'est vraiment une fausse alternative, peut-être une fausse bonne idée. On verra en tout cas comment on peut l'utiliser au mieux. Et puis vous répondrez au message qui arrive sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard. La Terre au carré.
En parallèle de cette industrie destructrice de la mode, la seconde main, elle, a de plus en plus de succès. Au départ motivés par des raisons financières, les amateurs de vêtements vintage sont séduits par l'argument écologique. C'est d'ailleurs sur ce dernier que surfe la plateforme Vinted, un site lituanien de vente en ligne au succès fulgurant ces dernières années.
Voilà, extrait d'un reportage d'Arte. En novembre dernier, la fripe est un mythe écologique et social. Emmanuel Durand, vous qui publiez l'envers de la fripe, la question écologique, évidemment, elle est centrale, tout comme la question économique. C'est ce qui revient toujours, justement, dans l'attrait pour la seconde main aujourd'hui.
Oui, on voit, en tout cas, sur le terrain que j'ai pu mener en France, on voit que c'est les deux arguments qui cohabitent étroitement. Hein. La crise économique et la crise écologique amènent vers ces nouvelles pratiques de consommation dont les acteurs en fait se sont emparés aussi pour donner cette image d'une pratique alternative qui serait vertueuse. Au Liban, c'est autre chose, c'est plutôt la crise économique, les crises économiques que traverse le pays depuis 2019 maintenant, qui amènent les personnes sur ces questions-là. L'argument écologique est beaucoup moins amené parce qu'en fait, paradoxalement, les Libanais, en tout cas les habitants du Liban, ont beaucoup plus conscience des routes, des circuits qu'empruntent ces vêtements. Ils savent que ça vient de loin, en fait. Ouais. Donc, l'argument écologique n'est pas vraiment mis en avant.
Nous, on le sait, mais on n'a pas envie de le savoir. Peut-être, on est peut-être plus dans le déni,
manière.
En tout cas. Pourquoi est-ce que c'est une fausse bonne idée, au fond, la fripe ? S'il faut résumer les choses un peu durement, parce que c'est vrai que c'est le sujet qui fâche, finalement, hein, autour de cette enquête. Hein.
Alors, je ne serais pas aussi dur, en fait, l'enjeu c'était de complexifier, donc surtout de se départir un peu de ces lectures un peu binaires où on va opposer le bien, le mal, le vertueux, le vicieux, l'industrie de la textile, de la fast fashion à la fripe, montrer un peu les dérives de l'industrie de la fripe, de la seconde main. C'était une manière aussi pour moi peut-être de montrer les circuits aussi qui fonctionnent et qui sont pour le coup réellement vertueux. En tout cas, une fois qu'on a émis cette précision, il me semble important de considérer l'impact évidemment environnemental de ces circulations de vêtements usagés qui, pour retrouver de la valeur, nécessite d'employer à très bas coût dans des régimes d'exception que sont les zones franches, notamment à Dubaï, qui devient une centralité du travail du tri aujourd'hui, ces dernières années.
Une zone franche, juste pour résumer, qu'est-ce que c'est exactement ? Bah,
c'est une zone en fait qui attire les entreprises par un régime d'exception fiscal notamment, mais aussi en termes de droit du travail, de droit de l'environnement. C'est voilà un amenuisement des législations qui permet de passer outre. Et donc c'est dans ces espaces-là, que ce soit à Dubaï ou en Inde, au Pakistan, au Mexique, au Chili, que s'opère aujourd'hui le travail du tri de la fripe. Donc voilà, la majorité des vêtements usagés qu'on consomme aujourd'hui passent par ces territoires-là, donc ont un impact environnemental, mais un impact social aussi en termes de main-d'œuvre, de qui y travaille, dans quelles conditions, etc.
Est-ce que l'arrivée des plateformes numériques a bouleversé aussi cette économie de la fripe ?
Oui, complètement. En fait, elle est venue amplifier en fait en jouant aussi sur cet argumentaire de l'alternativité, du modèle économique, du geste bon pour la planète. Elles ont amené des nouvelles catégories de personnes à consommer du vêtement usagé parce qu'en fait la fripe, elle a une odeur, elle a un toucher, elle nécessite quand on va dans les commerces de trouver la bonne taille, le bon vêtement, etc. Là, sur les applications avec ce système de filtres, etc., elle facilite l'achat et puis elle neutralise, elle aseptise le marché de la fripe. Donc ça a amené plein de nouvelles personnes à consommer usagées et puis surtout, c'est venu en fait fragiliser les modèles associatifs solidaires parce qu'on voit qu'il y a une vraie chute de la qualité des vêtements qui sont donnés aujourd'hui.
Emmanuel Durand, on va passer aux questions parce qu'elles sont très nombreuses pour vous. Alexandre, vous pose cette question toute simple. Est-ce que vous pensez que les friperies ont de l'avenir avec la qualité décadente des vêtements de la fast fashion ?
Alors ça, c'est un vrai enjeu. La surproduction, pour moi, constitue le nœud du problème. Et on produit aujourd'hui des vêtements qu'on peut appeler jetables, en fait. Ils ne durent pas et donc alimentent aussi de plus en plus les filières de la seconde main. Donc d'une certaine manière, oui, les friperies ont un grand avenir, mais en même temps, Elle fragilise le secteur associatif qui ne sait que faire de cet encombrement, de cette saturation de vêtements de très basse qualité qui en fait ne sont que des déchets.
Victoria demande, les vêtements de seconde main ne font-ils pas augmenter la consommation dans la mesure où le prix est moindre? On a donc tendance à acheter plus.
Oui, tout à fait.
Il y a un effet rebond évident.
Effectivement, il y a un effet rebond qui, par des pratiques incitatives telles que la vente au kilo, incite à surconsommer.
Michel, au sujet de Vinted, nous dit « Cette application a débloqué pour moi une sorte de bonne conscience. Ce n'est pas grave si j'achète des vêtements, même si je n'en ai pas forcément besoin, car si je ne les utilise pas, je les revendrai. Le vêtement qui pollue le moins, dit Michel, c'est celui qui n'est pas fabriqué. » Certes.
Tout à fait. La dernière phrase est à retenir.
Viviane, j'ai vu récemment une publicité de Vinted, deux copines qui discutent ensemble et qui semblent faire croire que c'est faire un geste pour la planète. J'ai cru tomber de ma chaise. Ça devrait être poursuivi pour publicité mensongère.
Oui, non seulement ce n'est pas faire un geste pour la planète, mais c'est aussi en termes de conditions sociales qui livrent, transportent, trient les colis Vinted. C'est tous les ouvriers de la logistique, les transporteurs, les livreurs, etc., qui appartiennent à une économie qu'on appelle ubérisée aujourd'hui. Et donc, socialement, ça pose aussi des questions en termes d'emploi et de travail.
On nous dit, quand j'étais petite, c'était des bourses aux vêtements par saison, dans les années 90. Les vêtements neufs étaient trop chers. Aujourd'hui, c'est le monde du consommable rapide, hyper polluant, et créant aussi des conditions de travail déplorables. Ça résume parfaitement ce que vous venez de nous dire. Gilles, dans son message, les vêtements qui existent aujourd'hui pourraient habiller combien de générations à venir? Stop à la production, gaspillage d'énergie, production de déchets, absurdité. Est-ce qu'on a une idée sur...
Il me semble, mais j'en suis pas tout à fait certaine, mais il me semble que c'est une, voire deux générations, si on arrête la production aujourd'hui.
Ah oui, carrément.
Oui.
Donc ça fait beaucoup, sur l'ensemble de la planète. Hein. Pascal, où en est le vote au Sénat et ou à l'Assemblée nationale d'une loi qui contraint les vendeurs de fast fashion de continuer à produire sans raison de la fripe?
Alors, la loi, il me semble qu'elle a été mise à l'agenda et finalement, ça a été repoussé. Donc, on attend encore. En tout cas, c'est vrai que c'est un sujet important parce qu'une des solutions, justement, ça va être de légiférer, d'encadrer cette surproduction de la part des industriels.
Louise demande, quelles sont pour vous, Emmanuel Durand, les alternatives viables? Qu'est-ce qu'on peut conseiller, alors, quand on a fait ce bilan qui nous laisse un peu, évidemment, songeurs?
Alors, il va y avoir...
Il faut y aller ou pas vers la fripe?
Oui, en tout cas, oui. Moi, ce qui me paraît essentiel, c'est d'aller sur des pratiques de consommation de choses, de vêtements, qui existent déjà. Et donc, à partir de là, il y a deux... Peut-être on peut voir deux solutions. Il y a la pratique des dépôts-ventes, où c'est quelque chose qui est très localisé, qui peut être associative ou non. Et puis, il y a toutes les pratiques de réparation, de maintenance, de soin des choses, où on va prolonger un peu plus la vie du vêtement. Il faut aussi apprendre à aimer un peu plus nos vêtements, même si la tendance change, continuer à les porter, à les réparer.
Ça, il y a un mouvement quand même d'upcycling qui existe aussi et qui est une vraie tendance marquée, à votre avis, ou ça reste encore très marginal?
Non, il me semble que justement, elle prend de plus en plus de place et c'est ce qui est intéressant et voire amusant, en fait, où on voit avec l'extrait que vous avez lu au début, en fait, où les pratiques de réparation,
de grand-mère et de ses propres grands-parents.
Et aujourd'hui, c'est des pratiques qui sont réinstrumentalisées, alors je ne le dis pas de façon péjorative, mais soit par les acteurs publics, et je pense là au bonus réparation mis en place par le gouvernement il y a plus d'un an maintenant, ou alors par les acteurs d'une mode qui se veut en tout cas durable, l'upcycling, le surcyclage, etc. Il me semble qu'importe comment elle est réinstrumentalisée, le tout c'est effectivement d'apprendre à revaloriser ces pratiques de réparation qui longtemps ont été quand même dévalorisée, méprisée parce que liée aussi à l'univers domestique féminin, puis liée à des contre-cultures, notamment punk avec la pratique dans les années 50-60 du do-it-yourself, en fait, avec ce mouvement-là. Et aujourd'hui, voilà, on connaît une revalorisation sociale de la réparation, de ces gestes-là. Et il me semble que c'est une solution viable, en tout cas souhaitable.
Donc, s'il faut retenir un conseil, c'est d'acheter ce qui existe déjà, pas du neuf, c'est ça, de vraiment acheter des vêtements qui ont servi. Éviter d'acheter au kilo aussi, c'est ce que vous dites, ou pas?
Acheter au kilo ou non, le tout, c'est d'essayer d'acheter peu. Finalement, et puis voilà, de réduire les en termes de consommation, réduire nos achats. Mais encore une fois, voilà, les sciences sociales sont pas là pour donner des leçons, dire quoi faire, parce que voilà, on est face à finalement des solutions qui sont assez petites. Mais voilà, de si je pourrais résumer, c'est d'essayer voilà à aimer un peu plus nos vêtements.
L'art de faire durer les choses.
C'est ça.
C'est vous qui citez cette phrase dans votre ouvrage. Merci beaucoup Emmanuel Durand d'être venu au micro de La Terre au Carré. L'envers des fripes, les vêtements dans les plis de la mondialisation, c'est aux éditions Premier Parallèle. Merci à Anna Massardier qui a préparé aujourd'hui ce dossier. Merci à vous.
Merci beaucoup.